Chapitre 26. Embarquez. Mary chancela et fut soutenue par Mistress Jones, qui l'attira vers une chaise où elle la fit asseoir.
Oh mon Dieu, murmura-t-elle. Que dois-je faire? Faut-il que l'innocent périsse? Bien que.
Elle s'arrêta, effrayée des paroles qui allaient lui échapper, et tournant les yeux vers Mistress Jones.
Je suis si peu de chose, ajouta-t-elle. Rien qu'une pauvre fille, sans moyens, sans idées, je ne saurais pas seulement trouver ce qu'il faudrait dire. Ah, oh, mon père, vous avez été si bon pour moi. N'importe, la mort viendra, tout s'arrange dans la tombe.
Que le Seigneur la protège. Elle a perdu l'esprit, s'écria la bonne hôtesse.
Oh non, j'ai bien toute ma raison. Il y a trop de choses à faire. Il faut agir, mais je ne sais pas. Je deviendrai folle, bien sûr. Mais pas maintenant, plus tard, quand j'aurai fait tout ce qu'il faut pour le sauver. Embarquez, dites-vous. Le John Cropper est parti.
Il a quitté les docks pour être prêt aujourd'hui à la marée montante, et ce matin il a mis la voile.
Je croyais qu'il ne partait que demain.
Will aussi croyait ça. Il loge ici depuis si longtemps que nous l'appelons Will tout court. Ce n'est que vendredi, quand il est arrivé, qu'on lui a dit la chose. Alors, au lieu de partir pour aller voir son oncle, il a été se promener du côté de Reel, avec Harris, le contremaître. Il a dû vous en parler de Jack Harris, car ils sont grands amis, quoique après tout.
Embarqué,
répéta Mary, qui tâchait de se persuader que le fait était possible.
Mon Dieu, oui.
Il est retourné à bord hier au soir, et mon gamin est allé avec lui pour voir le navire descendre la rivière. Il en est revenu comme un fou, et ne rêve plus que d'être marin.
Charlie, Charlie,
cria-t-elle de toutes ses forces. Mais Charlie n'était pas loin. C'était un de ces enfants qu'on trouve toujours où quelque chose arrive. Incendie, bataille, dispute ou conversation mystérieuse, et il avait assisté à l'entretien qu'avait sa mère avec l'inconnu qui y venait d'entrer.
« Ah, te voilà, Charlie. N'as-tu pas vu le John Cropper descendre la rivière? Dis donc à mademoiselle tout ce que tu sais là-dessus, car je vois bien qu'elle n'a pas l'air de me croire. »«
Eh oui, que je l'ai vu. Remorqué par un steamboat encore. »
« Si j'étais venu plus tôt, » balbutia Mary. « Mais je croyais si bien qu'il ne partait que demain. Et Jem va donc mourir, par ma faute, si j'étais venu hier. »«
Mourir ?» s'écria l'enfant.
« Oui, il aurait prouvé l'alibi. Mais à présent... »«
Eh bien, » reprit Charlie, profondément intéressé par cette mystérieuse affaire,
« essayons de le rattraper. Nous en serons quittes pour la peine si nous ne pouvons pas. »
Mary s'éveillait de sa stupeur. Le « nous » sympathique de l'enfant lui rendait du courage.
« Mais comment faire » demanda-t-elle. « Si vraiment il est parti, s'il a mis la voile. »
« Oh, c'est ma mère qui a dit ça, et pas moi. Est-ce que les femmes savent rien de ces choses-là? Voyez-vous, la rivière a des bancs de sable auprès de son embouchure. Il faut donc que la marée soit haute pour que les navires gagnent la mer. Surtout ceux qui sont d'un fort tonnage. Alors on les remorque jusque-là, et ils y restent quelque temps, pour attendre que l'eau soit assez grande. Nous avons donc un peu de chance, bon, pas beaucoup, de pouvoir attraper Will.
Mais que faire?
Est-ce que je ne vous le dis pas? Reprit l'enfant impatienté. Les femmes sont si stupides pour tout ce qui est de la mer. Il faut prendre un bateau et courir après lui. Le John Cropper est très chargé. Il lui faut beaucoup d'eau. C'est une chance que vous avez.
Pardon, mais je ne sais pas où trouver un bateau.
L'enfant éclata de rire.
Il n'y a pas longtemps que vous êtes à Liverpool. Si vous ne savez pas, rendez-vous près du môle, sur le port, et là vous verrez bien. Seulement dépêchez-vous.
Mais c'est la première fois que je viens à Liverpool. Je ne connais pas mon chemin. Où dites-vous qu'il faut que j'aille?
Maman, je vais la conduire. Je serai ici dans une heure, ou à peu près, ajouta-t-il à voix basse.
Et avant que Mistress Jones eût compris ce que disait son fils, il descendait la rue en courant devant Mary, qui s'efforçait de le suivre. Quand il se crut assez loin pour que sa mère ne songeât plus à le rappeler, il ralentit sa marche, et s'adressant à sa compagne, il lui demanda son nom.
« Mary Burton, » répondit-elle tout essoufflée.
« Vous avez besoin de Will pour prouver un alibi. N'est-ce pas comme ça que vous avez dit ?»«
Oui, besoin de Will. Mais si nous traversions ?»«
Tout à l'heure, il vous faudrait passer sous les ballots qu'on monte, et ça me fait peur pour vous. Qui donc qu'on va juger ?»
Mary entraîna l'enfant.
« Jem, »
répliqua-t-elle en poursuivant sa course,
est-il votre frère, ou bien votre bon ami ?
Ni l'un ni l'autre.
Votre cousin, peut-être.
Charlie, ne vous arrêtez donc pas.
C'est que, n'étant jamais venu à Liverpool, si vous vouliez regarder par là, vous verriez les fenêtres de la bourse, celles qui sont sur le derrière, un si beau monument, avec Lord Nelson, et d'autres encore, en statue dans la cour.
Par ici, Mary. Tenez, regardez bien. Et maintenant, vous pourrez dire que vous connaissez la bourse de Liverpool.
Oui, oui. Sommes-nous près des bateaux. Je m'arrêterai en revenant.
Oh, si le vent est bon, vous n'en aurez pas pour un instant à rejoindre John Cropper. Autrement, rien n'y fera. Et c'est pas une minute de plus ou de moins qui vous aura fait tort. Mais vous ne m'avez pas dit d'où vous veniez comme ça.
J'arrive de Manchester.
Ah, un vilain sale trou et noir. C'est pas comme à Liverpool. Tout le monde est pour le dire. Est-ce que vous y demeurez ?
Oh oui, c'est mon pays.
Eh bien, moi, je ne crois pas que je pourrais vivre au milieu de la fumée. Regardez donc la rivière. En voilà une de choses que Manchester n'a pas et qu'il voudrait avoir, sans compter tout ce qu'il donnerait pour ça.
Mary leva les yeux et vise à travers la forêt de mâts qui se déployait devant elle les eaux glorieuses de la Mersey, couvertes de navires portant le pavillon de toutes les nations du globe et venues à Liverpool non pour se défier et se combattre, mais pour y verser les produits de toute la terre. De petits bateaux glissaient rapidement sur la voie brillante et liquide, au milieu d'un nuage de fumée si épais, s'élevant des cheminées sans nombre de tous les steamers qui emplissaient les bassins, que Mary s'étonna de la remarque de Charley à propos de Manchester. Elle traversa le pont volant et s'arrêta hors d'haleine près de ces docks magnifiques, où les navires se chargent et se déchargent sans cesse. Les cris des matelots, des gens du port, tous ces langages divers que l'on parlait autour d'elle, lui faisaient sentir encore plus son isolement et sa faiblesse.
« Pourquoi rester ici ? » demanda-t-elle à Charley. « Je n'y vois que de gros navires et pas de petits bateaux comme celui que je dois prendre. »
« Assurément qu'il n'y en a pas. Mais le John Cropper était dans ce bassin-là. Je connais plus d'un matelot et je vais prier l'un d'eux de grimper en haut du mât pour voir s'il y est encore. Vous savez bien que s'il avait levé l'ancre, il vous serait inutile de chercher à le rejoindre.
« John Byrne !»
cria Charley en s'adressant à un vieux marin qui venait de leur côté, en se dandinant. Les deux mains dans ses poches et la chique dans la bouche, de l'air d'un homme qui n'a rien d'autre chose à faire que de regarder autour de lui et de cracher à droite et à gauche.
« John Byrne !»
Et l'enfant lui demanda ce qu'il désirait savoir, en employant un argot que Mary ne chercha pas à comprendre, et dont je n'essaierai pas de vous rapporter les termes. » Le vieux matelot écouta Charley, en examinant la jeune fille des pieds jusqu'à la tête, fit un léger signe d'approbation, car la pauvreté des vêtements de la jolie créature était pour le bonhomme une raison de lui accorder son estime, et les quittant pour se rendre à bord d'un navire, où il emprunta une lunette d'approche, il grimpa au grand mât avec l'agilité d'un singe.
« Il va tomber !»
s'écria Mary, qui, jugeant le matelot d'après sa figure hâlée par la tempête, et sa démarche incertaine quand il était à terre, le croyait plus âgé qu'il ne l'était vraiment.
« Lui, mais voyez donc, il est déjà là-haut, qui regarde dans sa lunette, et qui remue ses deux bras tout aussi facilement que s'il était sur le pont. J'y ai monté, moi, et bien souvent encore. Mais il faut pas le dire à ma mère. Elle a dans son idée que je dois être cordonnier, moi qui veux être marin. »
Elle n'entendait même pas ce que lui disait l'enfant.
« Le voilà qui va descendre, le voilà qui est en bas. » « Charlie, parlez-lui donc. »
Et dans son impatience, ce fut elle qui demanda si le John Cropper était encore en vue.
« Oui, oui, » répondit le vieux matelot. « Seulement, dépêchez-vous, car la barre est couverte. Dans une heure, toutes les voiles seront dehors et le navire prendra le large. Avec ça que le vent est contre vous. Pas une minute à perdre. Courez vite, courez vite. »
Ils se précipitèrent vers les marches qui menaient au bord de l'eau, en faisant signe à deux bateliers de venir les prendre. Mais ceux-ci, et comprenant qu'il s'agissait de quelque chose qui leur tenait au cœur, mirent au contraire une lenteur désespérante à s'approcher de l'escale.
« Oh, je vous en prie, je vous en supplie !» cria Mary. « Menez-moi au John Cropper. »« Charlie, dites-leur où il se trouve. Moi, je ne sais pas les termes. Seulement qu'il se dépêche. »«
Pour sûr, il est au large !»
dit l'un des bateliers, sans faire attention à ce que disait Charlie.
« Je ne crois pas que nous puissions y aller, Dick, » répondit l'autre, en faisant à son camarade un signe d'intelligence. « On nous attend à New Brighton. »«
Peut-être que cette jeune miss, pour avoir encore une fois son bon ami, nous paierait à bon prix, »
insinua Dick en regardant la jeune fille.
« Oh, tout ce que vous voudrez. J'ai de l'argent, beaucoup d'argent. Partons vite, chaque minute est si précieuse. »
Il ne faut pas moins d'une heure pour gagner l'embouchure de la rivière, et le John Cropper lèvera l'ancre d'ici là.
« Partez, je vous en conjure, et vous serez bien payé, »
leur répétait Mary. Mais cette fortune que la pauvre fille croyait avoir n'approchait pas les prétentions que les bateliers avaient conçues. Il ne lui restait plus que 14 ou 15 shillings de la pièce d'or que lui avait prêtée Marguerite, et les mariniers, qui lui supposaient au moins quelques guinées, insistaient pour avoir un souverain, prix exorbitant qu'ils avaient déjà réduit, ayant d'abord demandé 30 shillings.
« Payez-les donc et partez !» disait Charley,
qui ne s'arrêtait pas à la question d'argent.
« Vite, vite, l'eau monte, et le Saint-Nicolas se prépare à la manœuvre. » « Je n'ai plus que 14 shillings and 9 pence, »
dit la pauvre Mary, en comptant ce qui lui restait.
« Mais je vous donnerai mon châle. Vous le vendrez bien 5 shillings. Oh, je vous en prie, est-ce que vous ne voulez pas ?»
Les bateliers la prirent à bord. Elle ne vit pas que Charley restait sur le rivage, et pour la première fois de sa vie, elle se trouva dans un bateau qu'agitait le vent et les vagues, seule, avec ses hommes à l'écorce rude et grossière.